Bruxelles 92.1.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles pour la conspiration des planches, votre magazine critique des arts de la scène à Bruxelles. Et à mes côtés en studio, Isabelle, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à Élie qui est pas très loin je pense.
Mais non, bonsoir Elisabeth.
Bonsoir à vous deux et puis bonsoir à tout le monde.
Vous l'entendez, je la vois, bonjour, mais elle ne nous voit pas, c'est ça la magie des choses de ce studio. Voilà, donc dans cette conspiration des planches, on va dire qu'on s'approche tout doucement de la fin de la demi-saison avec des spectacles qui annoncent déjà les fêtes et d'autres créations, on va dire, moins festive, mais pas pour autant moins bonne ou moins appréciable. On commencera avec Rumba au Théâtre National dans quelques instants. On ira voir une traversée, la marionnette de Tita Iacobelli et de Natasha Belova au Tanner. Claude Semal revient avec son cabaret de queue belge, hein, si vous ne l'avez pas compris, en plus d'être bruxellois. C'est aux poches. Et puis on ira reparler un petit peu du spectacle post-mortem de Yasmina Douyeb de Retour au Varia. Mais comme promis, des retrouvailles au Théâtre National avec David Murgia et Ascanio Celestini qui reforment leur duo. Celestini à l'écriture et à la mise en scène et David Murgia à l'interprétation, accompagné de Philippe Aurivel sur scène, pour un duo en scène musical compté dans le flow pour nous parler de ces gens de la périphérie, Isabelle. On est dans,
oui,
un cycle avec eux.
Hein. Exactement, c'est un cycle, c'est vraiment le cycle de ceux qu'on ne voit pas, de ceux qui sont dans, oui, effectivement, comme tu disais, dans la pauvreté extrême et vraiment les marginalisés, les prostituées, les SDF. Alors, ce qui fait la force de ce spectacle, que moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, parce que, comme toi, Nico, comme Élie aussi, comme toutes les personnes dont c'est quelque part le métier, on voit beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, il y a parfois quelque chose qui s'installe, qui est de l'ordre, bon, bah, je vais au théâtre, hein, mais c'est pour le boulot. Et là, je me suis installée et le spectacle a commencé et je me suis dit, là, je pense que je vais assister à quelque chose. Mm-hmm. J'ai eu ça tout de suite. Je ne divulgâche rien parce que c'est, bon, voilà, il parle d'étoiles, il dit, y a tellement d'étoiles dans le ciel. Et à partir de là, je me suis dit, là, je vais assister à quelque chose. Il va se passer quelque chose, en fait. Et il s'est passé quelque chose, j'ai été bouleversée. C'est un spectacle du pauvre. C'est vraiment une mise en scène hyper simple.
C'est un spectacle pauvre du pauvre.
C'est un spectacle pauvre du pauvre, c'est-à-dire qu'il n'y a quasi rien.
Oui.
Il y a David Murgia, qui est énorme. et donc, il y a un comédien, un musicien en scène. Il y a une petite tenture rouge, comme ça, qui est posée au milieu d'un plateau nu, qui a juste des instruments de musique à jardin, une chaise avec une petite gourde d'eau à court, et c'est tout. Et en fait, on voit tout. C'est-à-dire que David va déballer l'histoire autour de l'histoire de Saint François d'Assise, ce pauvre parmi les pauvres qui rencontrait les lépreux. Il va déballer l'histoire de plein de personnes. Donc, pour mettre en place il est sur le comédien sur un parking de supermarché et il est descendu pour retracer, faire un petit spectacle de réveillon comme ça. Pour des touristes qui doivent arriver, des pèlerins, et pour retracer l'histoire de Saint François d'Assise. Bon, évidemment, les pèlerins n'arriveront jamais. Et il va raconter l'histoire de Saint François d'Assise, mais il va surtout raconter l'histoire de toute une série de pauvres gens qui s'articulent autour de cette place de supermarché, de ce parking de supermarché finalement, des laissés pour compte, oui.
Alors j'ai envie de faire l'avocat du diable, parce qu'on avait vu Laïka, on avait vu Pueblo, jusqu'à ce que tu nous dis là, rien de neuf j'ai envie de dire.
Non, mais c'est ce qui fait aussi la force de moi je trouve, et puis on peut les voir séparément, on peut entrer dans cette...
Alors, comme je dis, je faisais l'avocat du diable, c'est pas du tout ça, c'est pas pour diminuer l'intérêt de ce spectacle, non. Parce que moi, pour moi, il y a quand même quelque chose de neuf dans ce spectacle. C'est peut-être le spectacle le plus ancré dans la réalité et qui casse le plus ce quatrième mur. C'est-à-dire que déjà, David Murgia nous adressait des choses, mais il nous interpelle d'autant plus. Et c'est très intelligent, je trouve, ce lien entre l'histoire de Saint François d'Assise et ces pauvres bougres, ces pauvres oubliés de la périphérie, parce que d'un symbole précieux, de saint et tout ça, il nous ramène à une humanité profonde et il nous rappelle aussi tout ce qui a fait aussi le succès de... Et il dénonce un petit peu le succès qui est un peu contradictoire avec ce que prêchait saint François d'Assise, de son culte, hein, finalement. C'est ça aussi qui monte. Et c'est ça aussi, c'est qu'il ne fait pas un culte du pauvre, parce qu'on pourrait se dire « Ah, il n'arrête pas de nous parler de ça, nous les présenter comme des saints », mais ce n'est pas vrai. Mais ce qui est très fort dans le récit, et d'abord dans l'écriture, c'est aussi de nous mettre en empathie avec des personnages qui ne sont pas parfaits.
Qui ne sont pas nécessairement agréables, oui, voilà.
Voilà.
qui ont des idées qui ne sont pas toujours...
Vous allez avoir de la peine avec un personnage raciste, vous allez avoir de la peine avec des gens qui sont déjà minorisés et souvent stigmatisés. Que soit. Mais c'est vraiment une performance dans le récit d'abord et dans le fond, en fait, du spectacle.
Et le récit, en fait, David Murgia a retravaillé le texte, finalement. Il s'est emparé du matériau texte. Et ce qui fait qu'il y a une petite marge de je dirais pas d'impro, mais de direct, de en direct, donc de chaque soir, à mon avis, un tout petit peu différent, qui fait qu'on est vraiment emmené. Alors, le débit de David Murgia est relativement rapide. Mais c'est ça qui fait toute la beauté du spectacle, c'est très rapide, donc ça va, on est emmené avec lui. Et en même temps, dans cette rapidité d'élocution, donc
il
ça part dans tous les sens,
il y a
beaucoup d'émotions et il y a des respirations, en fait. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait vraiment la performance. Il y a d'une part effectivement ce texte dont David Murgia s'empare. On sait qu'il y a une vraie complicité entre les deux, hein, entre la personne qui a écrit le texte et la personne qui s'en empare. Il s'en empare, il fait sien et il nous le donne. Enfin, en fait, c'est vraiment, il nous donne quelque chose qui est presque unique à chaque représentation. Et il nous le donne dans une vitesse qui permet quand même de se poser. Donc, il y a tout ça qui fait ce théâtre du pauvre qui est avec très, très peu de choses, en fait, et quelque chose d'immensément riche.
Et pour souligner ce que tu dis, c'est que j'ai assisté, moi, hier, à une représentation de tous les dangers, puisqu'il y a eu un chapitrage par une voix off dans ce spectacle. Oui. Il y a eu un problème de voix off, c'est-à-dire que la mauvaise voix off a été
au mauvais moment,
et donc il se dit, bon, est-ce que je continue par rapport à la voix off ou je fais comme si de rien n'était? Et c'est ça aussi, rebondir, et tu dis, l'improvisation, elle était là. Et deuxième embûche sur son parcours, c'est qu'aux trois quarts du spectacle, on a dû interrompre la représentation à cause d'un malaise dans la salle, et le spectateur va beaucoup mieux. On a dû attendre les secours arriver, l'évacuation de cette personne. Et il est revenu dans son texte en nous refaisant un résumé rapide de ce qu'il avait raconté. Comme si le procédé qui lui-même le réinstalle dans son texte nous permet, nous aussi, de nous raccrocher. Et c'est ça aussi, Elisabeth, hors antenne, on parlait du talent de conteur. C'est ça aussi, hein, c'est d'aller rattraper le public quand il y a des imprévus.
Oui, voilà, et puis c'est aussi d'avoir réinstallé quelque chose, et Isabelle le soulignait d'emblée. Moi, je me demande, est-ce que par rapport aux autres spectacles, il y a la présence d'un musicien aussi,
oui,
la
oui.
musique est importante
oui. Oui, oui.
Ça, c'est toujours là, parce que ça fait aussi partie du charme et de la rencontre aussi. Il y a
oui,
la
oui.
musique qui vient mettre des pauses, qui vient aussi pas mal de choses.
Voilà, mais qui est vraiment là, qui accompagne, qui n'est pas trop présente, qui est vraiment quelque chose qui...
n'est pas illustratrice, oui.
Non,
qui
pas
n'illustre
du tout,
pas.
Pas du tout, pas du tout.
Parce que David Murgia, en fait, l'interpelle tout en nous interpellant.
Oui.
Et donc, il y a ce jeu qui se... qui se croise dans ce triangle, en fait, entre ce musicien, nous, et David Murgia, dont on souligne donc encore la qualité de jeu. Ça s'appelle donc Rumba et c'est sous-titré L'âne et le bœuf de la crèche de Saint-François sur le parking du supermarché. Juste souligner qu'au niveau de l'actu, avec les histoires de crèche,
ah ben voilà,
de Noël qui arrive et des problèmes sociaux qu'on connaît actuellement, je trouve qu'on ne pouvait pas viser plus dans le mille.
Plus juste, oui.
Voilà. Rumba, c'est à voir donc jusqu'au 6 décembre au Théâtre National dans la Grande Salle, www.theatrenational.be. Elisabeth, à ton tour, oui, pour le spectacle Une traversée de la compagnie,
oui,
Tchaïka.
Alors,
des retrouvailles également, en fait, non?
Pardon?
Ce n'est pas leur premier spectacle, donc ce sont des retrouvailles avec cette compagnie aussi.
Oui, ce sont des retrouvailles avec le tandem Natasha Belova et Tita Iacobelli, qui nous avaient donné notamment le formidable Loco, qui était une adaptation du journal d'un fou de Gogol. Et donc là, on avait un personnage et on avait on avait aussi une marionnette, une manipulation, et on avait le texte. Alors pour cette traversée, ben ce principe reste là parce qu'elles sont allées voir un petit peu du côté de la suite d'Alice au pays des merveilles, donc de l'autre côté du miroir, ou une traversée du miroir selon les traductions, j'imagine, de Lewis Carroll. Mais le texte est beaucoup moins présent, le texte, voilà, peut-être qu'on le connaît en plus beaucoup moins, en tout cas ça, c'est vraiment assez différent d'Alice, de ce qu'on peut en connaître, mais on est face à un personnage qui s'appelle évidemment Alice aussi, puisque elle voulait au départ traiter d'un personnage féminin, et puis la guerre entre la Russie et l'Ukraine a été déclarée, et Natasha Belova étant russe, ça l'a un peu choquée, et elles sont parties un peu là-dessus, et elles nous proposent en fait de voir le cataclysme apporté par ce conflit par les yeux d'une petite fille qui s'appelle Alice, et cette petite fille, on la découvre dans sa chambre, tout simplement en train de jouer avec son chat, et de jouer aux échecs. Alors les échecs, ça vient directement de Lewis Carroll et de son texte. Et puis arrive une explosion, son monde éclate, et on la suit dans l'après, en fait. Mm-hmm. Et on la suit de manière totalement visuelle, à travers cette marionnette qui est pilotée par le tandem à la base, mais encore une troisième comédienne aussi, elles sont trois. Et ce qui est différent de Loco aussi, c'est que c'est vraiment l'ensemble du plateau qui devient vraiment un terrain de jeu visuel, parce que tout le spectacle est basé sur ce qui se passe dans l'imaginaire de cet enfant qui a vu son univers se détruire, et comment elle se bat par l'imaginaire pour justement s'en sortir et tout ça. Donc ça, c'est une petite fable qui est là, que je n'ai pas personnellement, et c'est vraiment un point de vue personnel, perçu de manière tout à fait claire, mais ça n'a pas tellement d'importance parce qu'on est vraiment emporté par ce qui nous est proposé. Cette marionnette est, je pense, une des plus belles que j'ai jamais vues. C'est une petite fille toute simple, ce n'est pas elle qui parle, on a vraiment la voix qui arrive derrière elle. Et puis autour d'elle, on retrouve des éléments qui nous renvoient indirectement à l'univers de Lewis Carroll, et notamment la partie d'échecs et des confrontations avec tantôt une reine noire, tantôt une reine blanche, et des dialogues, mais qui partent chaque fois toujours de la petite fille. Donc on est dans quelque chose de très onirique, on est dans quelque chose de très très visuel, poétique, et en tout cas la salle est tout à fait emportée. Ce qui est différent aussi, peut-être nouveau aussi, c'est que c'est un spectacle qui est présenté comme étant familial. Et donc, on parle de le réserver à des enfants qui auraient au-delà de 10 ans. Je pense qu'effectivement, peut-être en dessous, c'est peut-être un peu tôt. Mais donc, c'est vraiment une plongée dans un univers qu'on avait déjà pu aborder, mais qui là est présenté différemment, et avec de très, très belles scènes et des parties qui m'ont semblé pour moi un peu moins fortes, mais comment est-ce qu'on les reçoit quand on est dans l'imaginaire, mmh. et tout à fait en phase avec l'actualité. Mmh. Alors, il faut souligner aussi que c'est quand même un spectacle qui a déjà une renommée internationale, déjà un parcours qui va... parce qu'il est, il est au Tanneur, je ne sais plus jusqu'à quelle date, mais
jusqu'au 5
pour
décembre.
C'est vendredi.
Voilà. Oui, mais après, il va partir quand même, je pense, en France, mais il me semble aussi au Québec.
Oui, oui.
Vraiment une tournée internationale. Et puis un retour chez nous, donc c'est toujours bon à prendre parce que c'est quand même un spectacle à la fois magique et essentiel. Donc, sur Louvain-la-Neuve et sur Liège
oui,
aussi.
Oui, je vais rappeler les dates si tu veux bien.
Voilà, je veux bien.
Alors, les Tanneurs, c'est jusqu'au 5 décembre, donc. Alors, ça ira tourner chez nous du 14 au 16 janvier 2026, évidemment. Et puis, ça ira à Louvain-la-Neuve du 31 mars au 4 avril et au Théâtre de Liège du 8 au 11 avril.
Voilà.
Un spectacle donc, qu'on pourra suivre sur les routes. Ça tombe bien, ça s'appelle une traversée du miroir, vous l'aurez compris avec Alice.
Voilà, enfin, de l'autre côté des apparences, mais surtout, c'est une autre manière de voir la guerre. C'est la guerre, comment elle peut être perçue par un enfant, comment elle est ressentie aussi et comment on fait pour rester en vie là-dedans, en fait.
www.letanneur.be pour toutes les informations. On fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après ceci.
Bien sûr, bien volontiers.
La mer est belle, surtout la mienne. Mon rêve te voir sourire jusqu'à ce que le soleil s'éteigne. C'est-à-dire toujours, enfin très longtemps. Je regarde nos photos de famille dans ces valises trop grandes. Que de bons souvenirs à tes côtés. Quand je passe à la maison, tous mes problèmes sont de retrait. Tout le temps je me dis quelle grande maman tu es. T'es si fort dans ce monde où le simple mot peut te déchirer. J'ai fait 24 fois le tour du soleil. 24 heures, je trouve pas le sommeil. J'aimerais dire combien je t'aime. On est le 24, faut que je t'appelle. J'ai fait 24 fois le tour du soleil. 24 heures, je trouve pas le sommeil. J'aimerais dire combien je t'aime. On est le 24, faut que je t'appelle. Un jour tu verras New York, je te l'avais promis. Je veux voir ces tours qui touchent les nuages et te regarder sourire. On dit que si on atteint le sommet un jour, la pluie n'existe plus ainsi que tous nos soucis. Ouais, ça tombe bien, je veux donner tout ce que j'ai pour me rappeler encore plus de tout ce que tu m'as appris. Tu m'as appris que croire en ses rêves, c'est croire en qui on est. Si on les met de côté, nos plus profonds cauchemars renaissent. Je vais chanter mes chansons dans une foule qui chantera cette chanson à tue-tête. Tu vois, c'est pas un mirage. J'ai fait de ma vie ce dont je te parlais quand j'étais mal. Tout ce bonheur que tu m'as donné, je te le redonne maintenant pour te remercier. J'ai fait 24 fois le tour du soleil. 24 heures que je trouve pas le sommeil. J'aimerais dire combien je t'aime. On est le 24, faut que je t'appelle. J'ai fait 24 fois le tour du soleil. 24 heures que je trouve pas le sommeil. J'aimerais dire combien je t'aime. On est le 24, faut que je t'appelle.
Mamá, ¿cómo estás? Es el 24 de mayo y acabo de terminar esta canción. Espero que te va a gustar. Solo decirte que te quiero mucho, mamá.
Aujourd'hui, j'ai la ferme conviction que les humains se divisent émotionnellement. On vit une double vie, celle qu'on montre aux autres et celle qu'on vit en solitaire. Est-ce que quelqu'un m'entend ? C'est une question simple. Avez-vous vu ma douleur tout ce temps ? Combien de temps va-t-on encore avoir peur d'être nous-mêmes, dans la joie comme dans la tristesse ? C'est ce que Kaki explique, celui qu'on vient d'entendre, hein, Kaki, sur le titre 24, pour expliquer aussi le titre de son album « Joli monde », un album, un titre en tout cas plus optimiste que ne pourrait le laisser penser parfois ses paroles, mais en tout cas, il croit au monde et c'est ce qu'il nous invitera à faire aussi lors de son concert au Botanique le 4 décembre prochain, c'est-à-dire demain, ce jeudi. Voilà, www.botanique.be. On est de retour sur Radio Campus dans la conspiration des planches et on continue notre petit tour des spectacles avec une reprise ou en tout cas une revisite par Claude Semal de son célèbre cabaret de queue, Belgian cabaret de queue. C'est un titre qui était déjà à l'origine.
C'était cabaretieux.
C'était cabaretieux et maintenant c'est cabaret de queue. C'est ça. Ça oui, moi je ne suis pas spécialiste de Claude Semal. Voilà. Mais voilà.
C'est
voilà.
Histoire d'être couleur locale quand même.
Alors Elisabeth, c'est toi qui as vu cette création.
Oui,
une création qui annonce déjà les fêtes dans sa forme en fait.
Pardon ?
C'est une création qui annonce les fêtes dans sa forme de cabaret, justement.
Oui, justement, parce que c'est un côté quand même plein d'humour, un côté, je ne vais pas dire potache, mais quasi. On a de la musique qui nous accompagne tout le temps. Bon, évidemment, il y a deux musiciens sur scène, donc c'est bien, mais il y a aussi une petite musique de kermesse comme ça en fond sonore dès qu'on rentre dans la salle. Donc on est un petit peu plongé dans une atmosphère qui, effectivement, sent bon le sapin, quoi, les fêtes et tout ça, mais pas que, parce que ça reste un spectacle, ça reste quand même Claude Semal, hein, qui se veut quand même un chanteur engagé, quelqu'un qui a des choses à dire, qui prend la parole politiquement aussi, donc tout se retrouve là. Mais c'est aussi un phénomène parce que c'est un spectacle qui a 25 ans. Et finalement, on découvre ces deux interprètes qui ont 25 ans de plus, mais qui n'ont pas pris, je ne sais pas s'ils n'ont pas pris une ride, probablement que oui.
Et pas de ride scénique, on va dire.
Ils abordent maintenant une belle crinière blanche, tous les deux, hein, parce qu'ils sont deux, Claude Semal et Eric Draps, qui est multi-instrumentiste. Et ils nous proposent de nous pencher sur quelque chose. Bizarrement, on se rend compte que on n'y pense plus trop, c'est à cette belgitude et on se souvient aussi qu'il y a des périodes comme ça où le communautaire, on nous le sortait matin, midi et soir et puis là, finalement, il est un peu dépassé par d'autres problèmes, notamment des problèmes de crèche. Hein. Mais voilà, donc c'est une petite replongée dans la belgitude. Pourquoi ? Parce qu'il se pourrait, que la Belgique n'existe bientôt plus. Je ne vous en dis pas plus, il ne faut pas tout spoiler, divulgâcher si on veut parler français. Mais on retrouve donc ces deux musiciens en pleine forme qui nous interprètent des chansons de Claude Semal ou des chansons qui chantent bien la belgitude. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont non pas la pêche, mais la frite. Parce que il y a la frite, la mayonnaise, le trappiste qui va avec, ce petit pays où on boit beaucoup de bière, où il y a des cafés un peu à tous les coins de rue, il y a quand même une tendresse qui passe, même s'il y a des choses qui sont par moments plus virulentes. Et tout le spectacle s'articule autour de sketchs qui fonctionnent bien entre les deux, en fait, hein, la différence entre un petit quête flamand et un petit quête wallon, c'est ces deux papis, finalement, ils s'y collent, ils s'en tirent super bien, ils sont mis en scène par Laurence Warin, qui a retravaillé, il y avait aussi une mise en scène de Martine Kivitz, qui était aussi quelqu'un qui était très fort impliqué dans la musique. Donc, on a de la musique tout le temps, on a des sketchs qui fonctionnent, on a des choses un peu plus grinçantes par moment, et puis on a cette belgitude, on nous la resserre comme ça, et bon, ça fait plaisir, quoi.
Isabelle, tu me disais que ce spectacle, en tout cas un cabaret de Claude Semal, tu en avais vu, tu gardes un souvenir
mais je garde un souvenir de quelque chose de très, très enlevé, de très belge, mais je l'ai vu il y a très longtemps.
Voilà, c'est vraiment l'azouan.
Je me rappelle d'un spectacle qui dénonçait certaines choses sous des airs. Oui, très belgo-belge et très, très surréaliste, bon enfant, quoi.
Il y a
un
peu tout ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même une évocation des expulsions des réfugiés qui est là, qui est très mordante, très piquante. mais présenté, bah oui, comme un sketch qu'on pourrait voir dans une fancifère, hein, mais c'est féroce quand même.
Mais voilà, c'est féroce. Et donc puis, moi, je me rappelle de cette double couche, en fait, de ce... Voilà, c'est on ça. Rit, et puis alors on se dit, oups, mais voilà, oui.
Du spectacle, et donc, bah voilà, c'est des fêtes de fin d'année, mais pas idiotes, quoi. Mm. Mais surtout, voilà, deux chanteurs qui ont vraiment l'Afrique.
C'est ça. Et puis une réelle présence scénique. C'est vraiment des chanteurs comédiens qui sont assez extraordinaires.
Aussi une maîtrise quand même du côté musical, hein, parce que Eric Trapp se met au piano, il est au saxophone, ils sont parfois une espèce de, c'est pas ukulélé, mais enfin ça doit y ressembler. Claude Mal, il a sa guitare, mais donc on est vraiment régalé musicalement aussi. Et voilà, donc on peut se faire plaisir, on l'a bien mérité quand même. Hein.
Oh oui. Nouvelle version donc du Cabaret Thieu créé par Claude Semal, c'était en 2006 à l'époque.
Voilà, ça ne rajeunit pas. Hein.
J'ai bien dit, ça faisait un petit temps que je l'avais vu.
Et bien ce Belgian Cabaret, avec Belgian, il est plus internationalisé, il s'adapte peut-être plus à une sociologie de la capitale aussi, bref.
Oui, et puis la grande question, c'est la Belgique encore combien de temps, hein, stop oui. ou encore,
et
mais bon.
On voilà. parlera quelle langue, c'est ça aussi. Donc c'est à voir jusqu'au 20 décembre au Théâtre de Poche, www.poche.be. Pour clore cette émission, un petit retour sur un spectacle qui est en reprise au Varia en ce moment.
C'est le plus grave.
Oui, alors c'est Post-mortem de Yasmina Douyep. Alors plus grave, mais ce n'est pas un spectacle qui nous emmène uniquement dans l'obscurité. C'est de savoir un petit peu comment la mort, elle s'adresse à nous. Bon, elle s'est adressée à la vie de Yasmina Douyep, notamment par le décès de sa mère, qui a été un petit peu le point de départ de ce spectacle et de sa réflexion sur la perte d'autrui. Et qu'est-ce qu'on perd? C'est aussi une voix qu'on perd et c'est un spectacle où la voix est très présente puisque dans un décor composé de boîtes, de caisses entassées, vont émerger des voix, des visages avec une sorte de discours sur notre rapport aux morts, aux ceux qui ne sont plus là. Et au deuil. C'est un spectacle qui se veut cathartique, mais qui veut aussi rassembleur puisque... Malheureusement, c'est aussi dans la mort qu'on se retrouve tous et autour de la mort qu'on se retrouve tous. Dans une scénographie d'objets signés Charlie Kelly-Neumann et Thibaut de Coster, Yasmina Douyep revient avec tout un ensemble d'histoires qu'elle a glanées, parfois fictionnalisées, mais pas toujours.
Oui. Mais c'est aussi, pardon,
je t'en prie.
Mais c'est aussi quelque chose qui se veut très proche de nous, hein, parce que c'est pas la mort sacralisée, c'est tous les objets, toute la scénographie, si je me souviens bien, c'est quand même des armoires avec des tiroirs, on ouvre le tiroir, mais c'est l'armoire de la grand-mère ou une armoire qu'on pourrait avoir chez nous. Il y a quelque chose qui fait que finalement, on est vraiment invité à se rapprocher aussi de ce deuil et peut-être d'aller vers les nôtres ou de voir un peu.
Alors, j'avais reçu ce spectacle avec quelques... il me manquait, alors vous allez me dire, autour de ce sujet, c'est compliqué, un peu de chaleur ou en tout cas un petit peu plus d'invitation à entrer dans ce spectacle. Je ne doute pas qu'il a fait pas mal de route, hein, déjà, ce spectacle, et donc qu'il y ait des petites choses qui soient améliorées, mais c'est aussi... une attitude face à la mort, c'est de, je vais pas dire de rester plus de glace, mais en tout cas de ne pas être totalement dans
de ne pas se laisser toucher.
Voilà.
Ou d'y mettre des formes, peut-être.
Ou en tout cas de réagir avec la retenue aussi. Ça s'appelle donc Post-mortem de Yasmina Douyep, c'est à voir donc jusqu'au 13 décembre au Théâtre Varia. Voilà, c'est ici que s'achève cette conspiration des planches. Merci Isabelle.
Merci Nico.
Merci Nicolas.
Et merci Elisabeth aussi à distance, qu'un son parfait. On retiendra cette opportunité. Donc, et on vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine. On est encore là 2 semaines pour vous annoncer et vous paver les routes du théâtre jusqu'aux fêtes.
Et les fêtes, oui.
Voilà. Belle bonne semaine planche. Et bonne planche
à
tous.
Mais surtout, allez au théâtre quand même.
C'est le bon conseil que tu nous donnes à chaque fois et on te suit, Elisabeth. Voilà.
Ah ben merci, super.
Belle soirée, belle fin de semaine et à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt. We'll be right back.
conspiración.